Bien, donc bien, merci d'abord pour m'avoir invité à vous présenter un peu une lecture particulière. Donc ce que je vais faire, c'est par rapport à ce qu'a dit Robert, c'est que je ne vais pas du tout parler d'institutions, parce que c'est un enjeu très très lourd ici, et c'est quelque chose qui est très structurant dans la façon dont les choses sont organisées. Je pense que toutes les remarques et toutes les questions qu'a soulevées Robert sont tout à fait pertinentes. Elles s'inscrivent dans des problèmes d'organisation institutionnelle qui sont très lourds et très contraints en France aujourd'hui. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt d'avoir une lecture un peu économique à partir de concepts assez larges. Et je vais très peu parler de gouvernance et de conditions de la gouvernance. Pour essayer d'évoquer à la fin, après avoir présenté un peu ces différents arguments, quels sont les mécanismes qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur la carrière académique, le mode de gestion, les critères et la façon dont les choses peuvent évoluer. Donc c'est quelque chose qui va être à la fois, je dirais, une croisée d'un peu d'empirie avec beaucoup de concepts et un essai d'articulation de tout ça. Et pour tout de suite vous donner une idée un petit peu, parce que je suis quand même statisticien, donc de temps en temps j'utilise les chiffres, ce sera les seuls de la présentation. Simplement rappeler quelques faits qu'il faut garder en tête, parce qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre aujourd'hui. Les choses changent, et la carrière de, je dirais, membre, professeur, enseignant-chercheur dans une institution d'enseignement supérieur, eh bien elle connaît dès aujourd'hui une grande diversité. Il n'y a plus que la carrière à l'université, il y a des carrières ailleurs. Il y avait déjà les carrières dans les écoles, dans les grandes écoles, qui étaient différentes des carrières à l'université. Et pour illustrer ce phénomène, je voudrais simplement pris quelques chiffres. C'est que si vous regardez les effectifs de l'enseignement supérieur entre 2001 et 2012, ils ont augmenté de 4%. Sur la même période, dans l'enseignement privé et associatif, ils ont augmenté de 49%. C'est-à-dire que Il y a à peu près 15 ans, vous aviez 13%, c'est-à-dire à peu près un élève sur 7 qui était dans un système privé ou associatif. En 2012, il y en avait pratiquement un sur 5. Donc les choses changent, les choses bougent, les gens votent avec leurs pieds. Pendant cette période, bien entendu, les effectifs enseignants ont augmenté. Alors ils ont augmenté un petit peu, ils ont augmenté de 4%, comme les effectifs sur la période, pour les effectifs qui sont sous le contrôle du ministère de l'Enseignement supérieur. Les effectifs des enseignants non permanents ont augmenté un peu plus vite, et puis les enseignants du secondaire se sont contractés. Si on regarde ce qui se passe du côté du monde associatif et privé, les choses sont beaucoup plus complexes, parce qu'on n'arrive pas à avoir de statistiques qui décrivent bien la situation. Néanmoins, on a une augmentation des effectifs, des enseignants, chercheurs, mais qui prennent des formes très diverses. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont être en CDI, des gens qui vont être en CDD, des gens qui vont être en CDII, donc c'est des CDI intermittents. Les gens interviennent pendant avec des contrats semestriels. Et puis, vous avez une grosse masse de vacations, mais tout comme à l'université. Donc voilà, on est dans cette situation, les choses sont en train de changer. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un drame? Est-ce qu'il y a une vraie question derrière cela? Ou est-ce qu'il y a un cadre général qui permet de penser qu'il peut y avoir une diversité? Et cette diversité, elle va amener à des diversités d'organisation, des diversités d'usage des ressources, des diversités de formation, et donc des diversités de carrière des personnes qui y travailleront. Donc c'est un petit peu le point de vue que je vais essayer de développer ici. Alors pour essayer de motiver un peu ces choses, ma présentation va s'articuler sur trois choses. D'une part, la présence d'effets de pair, les peer effects, qui sont un des éléments constitutifs de l'existence d'une école. C'est ce que je vais essayer d'argumenter dans un premier temps, pour dire qu'en fait, on peut voir une institution d'enseignement supérieur, et en fait, supérieur ici n'est pas nécessaire, une institution d'enseignement, comme un club qui gère des externalités. Mais une institution d'enseignement supérieur est une institution multiproduit. Elle ne fait pas que de l'enseignement, elle fait aussi de la recherche. Et donc la combinaison de ces deux effets va modifier la structure et les liens entre les acteurs. Et à partir de cette lecture, je vais simplement essayer d'évoquer des modifications anticipables ou qui sont aujourd'hui déjà à l'œuvre sur ce que peut être une carrière professionnelle dans une institution d'enseignement supérieur. Donc j'ai bien sûr évoqué aussi des situations aux États-Unis ou en Europe derrière tout ça. Donc le premier point que je voudrais simplement évoquer, c'est en fait qu'est-ce qui va motiver l'existence d'associations de personnes qui vont former d'autres personnes à certains endroits. Un des arguments, c'est des arguments donc de bien public exclusif, avec, comme l'a rappelé Robert, donc c'est de la nature des biens publics, ce n'est pas des biens publics qui sont purs, ils ont des imperfections, il faut essayer de les traiter. Et il y a une autre notion qui va être la notion de effet de pair, donc peer effect, c'est-à-dire comment je peux utiliser les bonnes aptitudes de certains élèves dans la classe pour aider à former ceux qui sont avec des aptitudes plus limitées ou plus basses. Donc, c'est une question qui n'existe pas que uniquement dans l'enseignement, hein, c'est une question qui existe dans plein d'endroits. Il y a toute une littérature qui s'est développée pendant les 20 dernières années sur comment ces effets de pair, ces effets de comparaison, ces effets de groupe vont structurer, créer des rigidités du fait des asymétries d'information et choses comme ça qui vont avoir des conséquences assez lourdes sur la structuration du tissu économique et des positions relatives des individus. Donc, si on appelle un bon père quelqu'un qui a dans la classe qui génère des retombées positives, à partir desquelles ses congénères en profitent, bien la question qui est derrière ça, c'est est-ce que ce mécanisme est asymétrique ? Parce que ça devient un enjeu, parce que si c'est asymétrique, ça veut dire que les mauvais profitent plus des bons que les bons sont pénalisés par les mauvais. Et donc, il y a une mission, en certain sens, une optimalité à essayer de composer des classes où il y a une diversité pour que tout le monde profite des effets des bons pères. Cette chose-là, donc c'est une question qui est une question structurante et qui est une question qui, néanmoins, repose sur une empirie. Il faut pouvoir mesurer ces choses-là. C'est des choses difficiles parce que si vous les mesurez aujourd'hui, vous allez prendre en compte le fait que les gens ont déjà fait des choix, ils se sont mis en situation, ils se sont organisés. Et donc, il va falloir être capable de mesurer l'effet des pairs en contrôlant de la situation dans laquelle vous êtes, ce qui est quelque chose d'assez difficile, parce que les gens vont, si je le fais au niveau des écoles, les parents vont choisir leurs écoles, parfois, ça dépend des pays où vous êtes. Et puis, s'ils sont dans une école et qu'ils ont déjà eu un enfant, une fille ou un fils qui sont déjà passés, ils vont essayer, et qu'il y a plusieurs classes du même niveau, ils vont essayer que leur enfant soit avec le prof qui est bien réputé, l'enseignant qui est bien réputé dans l'institution, et ainsi de suite. Donc, tout individu a des préférences, il veut que ses enfants soient bien formés en général. Il peut parfois mêler ça avec des préoccupations religieuses, hein, vous avez des écoles religieuses. Et donc, comment tout ça va se mêler pour définir des structures, une structuration de la partition des individus en groupes qui vont aller dans des classes et se former. Alors, est-ce qu'on a une empirie qui nous dit, oui, les effets de pair existent, et est-ce qu'ils sont asymétriques ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est comme je vous dis, il y a plein d'effets de structure qui font qu'il faut pouvoir faire des mesures nettes de tous ces choix individuels qui amènent à la situation qu'on observe. Et donc, il y a de nombreux travaux empiriques, mais qui sont relativement fragiles. Donc, les premiers travaux ont commencé dans les années 60-77. Et ensuite, vous avez toute une littérature énorme qui a traité ces problèmes avec des critiques, une critique assez sérieuse qui a été faite par Angrist l'année passée dans un papier qui a été publié l'année passée. Donc, je vais essayer de juste prendre quatre exemples de choses qui ont été faites, parce que dans ce genre de choses, le mieux, c'est d'utiliser des expériences naturelles ou quasi-naturelles. Alors, il y a quand même des travaux qui ont été faits avec une information très, très détaillée. Donc, en particulier, Betts et Morel, donc des gens de San Diego, ont fait une mesure de est-ce qu'il y a des effets de structure, de la composition de la classe qui jouent sur le succès ou la performance éducative des élèves, en prenant en compte toute l'histoire des élèves. Donc en prenant l'endroit d'où ils viennent, la famille, les parents, les enfants, en essayant de contrôler une multitude de choses et rendre les choses les plus comparables possibles. Et ce à quoi ils sont arrivés, c'est qu'il y avait un impact négatif sur l'évaluation moyenne des notes des personnes. Donc il y avait, si la proportion de congénères bénéficiant de l'aide aux familles, donc c'est pour les familles en général seules, femmes seules et familles monoparentales, mais vous avez d'autres circonstances, vous avez une baisse un poids négatif, en fait une influence négative. Et en revanche, si vous mettez dans la même classe des gens qui ont été diplômés dans d'autres cours, mais des diplômes avec des niveaux supérieurs ou égaux, là vous avez un effet positif. Et puis ensuite, vous avez des expériences quasi naturelles. Donc il y a trois, ou il y en a plusieurs, mais il y en a quelques-unes qui sont ici, qui sont assez fréquemment citées. où on voit, donc là c'est des expériences naturelles où on alloue aléatoirement les gens dans les dortoirs, dans les universités américaines, et on voit qu'il y a un impact positif sur l'appartenance, sur les effets de pair, donc il y a un impact sur la même mesure moyenne des notes, une influence positive des aptitudes verbales, c'est-à-dire que vous avez des effets positifs qui sont d'autant plus grands que les gens qui sont dans votre groupe ont une meilleure maîtrise du vocabulaire et de la langue, ce qui est tout à fait intuitif. Et puis vous avez des effets de composition de genre aussi. Si vous êtes dans une classe où il y a beaucoup de filles, eh bien, vous profitez du fait que les filles font moins de ruptures, sont plus attentives, et donc vous profitez plus de votre enseignement, et vous avez de meilleurs résultats. Et quand on étudie la symétrie, on voit que la symétrie est très faible. Donc il y a des effets de pair, ils sont assez importants. Ils sont présents, mais ils ne sont pas massifs, mais ils ne sont pas asymétriques non plus. Et en fait, quand on compare différentes littératures là-dessus, ce qu'on observe dans les effets en matière académique, les effets de pair sont beaucoup plus faibles que ce qui se passe sur les comportements de consommation de drogue ou de comportement criminel, où là, c'est beaucoup plus massif. Bien, donc on est influencé par les gens qui sont autour de soi. Et donc, quand on peut avoir des préférences pour savoir avec qui on va être et prendre en compte les compétences des gens qui vont être dans la salle de classe pour vous former. Alors, derrière ces questions-là, c'est donc la question de qu'est-ce que c'est que l'éducation ? L'éducation, usuellement, c'est présenté comme un bien public qui génère une externalité positive pour toute l'économie. Et donc, vous avez la tradition, donc c'est le bien tutélaire. Il faut que l'État intervienne pour forcer les gens, parce qu'ils sont myopes, soit ils ne prennent pas en compte les externalités, à se former. Il faut donc qu'ils les aident. Mais après, vous avez aussi une approche qui consiste à dire, oui, mais dans un établissement public, vous ne pouvez pas entasser plein de gens. Il y a un problème de limite de taille. Donc, vous avez une exclusion possible. Vous déplacez à un certain endroit, donc il faut que vous déplaciez dans la salle de cours. Vous allez solliciter la ressource du professeur de façon différente. Donc plus il y a de gens qui vont solliciter le professeur, moins il va pouvoir en donner aux autres. Donc il va y avoir un aspect de congestion. Donc tout ça va faire qu'on va avoir un bien public qui va être pas considéré comme un bien public standard, mais un bien public local du fait de ces congestions et d'exclusions. Et à côté de cela, vous allez avoir ces effets de pair, donc ces effets de structure de personnes qui sont dans la classe, qui vont jouer le rôle d'externalité locale. Donc vous allez pouvoir en bénéficier encore plus. Donc on peut décrire l'enseignement comme un bien de club, c'est-à-dire un bien dont l'usage est exclusif et non rival, jusqu'à un certain point d'engorgement. Et donc il y a une très grosse littérature sur les clubs, sur les groupes, sur ce qu'on appelle les biens publics locaux, puisqu'on a aussi toute une littérature sur la taxation des biens locaux et la structure de financement de ces biens locaux. Donc ça a commencé dans les années 60, et vous avez toute une littérature qui a mathématisé le cadre, qui l'a construit, et qui fait qu'on a aujourd'hui une façon de lire ce que c'est qu'une école, aussi bien au niveau local que au niveau d'une université, comme un club. Alors, ce club, c'est donc un endroit où on va mettre des gens qui vont profiter d'externalités locales et qui vont apprendre quelque chose. Et ce club, ça va être un endroit où il faut que les gens se coordonnent pour savoir où ils doivent aller. Donc, il y a toute une théorie mathématique qui a été développé, donc en particulier par les quatre auteurs qui sont au troisième bullet point qu'il y a sur ce slide, et qui dit, en fait, eh bien, vous pouvez partitionner sur les gens ont des aptitudes, les gens ont des préférences, et vous pouvez partitionner tout l'univers avec des caractéristiques qui sont multivariées, les gens peuvent avoir plusieurs caractéristiques qui vont les caractériser. Eh bien, vous pouvez construire un équilibre, vous allez faire des groupes homogènes de clubs, où les gens vont participer éventuellement à plusieurs clubs, et il va y avoir des systèmes de prix, positifs et négatifs, qui vont soutenir l'appartenance à ces clubs. Donc c'est-à-dire qu'on va payer pour être dans un club, ou on va être payé pour être membre du club, tout dépendra de la mission de chacun dans ce club, en fonction d'une transformation, donc là on peut le faire dans le cas de l'école, transformation des aptitudes et formation et certification d'un niveau atteint. Et donc, il y a bien sûr des hypothèses très techniques derrière tout ça pour arriver à ça, mais c'est quand même une situation qui vous dit économiquement, l'État n'a pas besoin d'être présent dans l'organisation de ces écoles, vous avez simplement à avoir une structure de prix qui va révéler à chacun, suivant, plus un ensemble de signaux, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'informations qui soient disponibles, qui va décider pour chacun où il veut se former et où les professeurs veulent être pour enseigner. D'accord ? Donc ce cadre est un cadre qui est critiquable, en particulier par rapport aux questions qu'a soulevées Robert sur... dans ce cadre-là, il n'y a pas d'aléa, il y a une information pratiquement complète, il n'y a pas de dynamique, et donc la répétition des opérations n'est pas prise en compte. C'est un cadre statique. Alors c'est un cadre statique qui peut être, on peut dire, comme il n'y a pas d'aléa, c'est je connais toute l'histoire, donc je peux prendre en compte à la fois les salaires à venir et tout ça qui vont résulter de mon appartenance à un club qui m'a donné un certain diplôme, mais c'est quand même un cadre qui vous dit il y a une structure de prix qui peut légitimer et montrer que cette situation est une situation optimale au sens où vous perdez si vous n'y allez pas. C'est-à-dire que c'est une notion d'optimalité au sens du cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une meilleure situation si on utilise seul ses ressources. Donc, qu'est-ce que c'est un club ? Comment une institution supérieure peut être vue comme un club ? Ça veut dire que quand vous êtes un étudiant, vous avez payé un prix pour être membre. Et le fait d'être membre, c'est le fait d'avoir un diplôme. C'est le fait d'avoir rempli les conditions qui sont choisies par cette institution. Et dans les prix positifs qui vous allez payer, c'est à la fois le prix des frais de vie, le prix de la tuition, des frais de scolarité, pardon, et puis tous les salaires différés, parce que quand vous êtes à l'université, vous ne gagnez pas d'argent. Pour le professeur, c'est un endroit qui valorise un certain nombre de savoir et qui se propose comme une transformation des compétences et des skills pour arriver à donner ce diplôme aux étudiants. Et donc, c'est un prix négatif. Vous êtes salarié. On vous paye pour participer. Et vous avez un processus. Dans les deux cas, ce sont des clubs. Donc, ça veut dire que c'est sélectif. On vous sélectionne. Alors, cette sélection se fait à travers les prix, à travers les préférences, à travers les salaires, à travers tout ça. Et la façon dont vous allez faire votre prix, ça va prendre en compte la façon dont vous allez valoriser les effets de pair. Donc les effets de bénéficier des gens qui sont dans votre classe. Et donc on retrouve Hansmann, parce que Hansmann est quand même quelqu'un qui a fait plein de choses assez intéressantes, je suis tout à fait d'accord, sur l'éducation supérieure. Hansmann a introduit cette notion dans les années 87, avant son papier sur la notion de associative goods. Donc lui, pour lui, il décrivait les enseignements supérieurs comme des biens associatifs, on va dire associatifs, au sens où les gens, en fait, une université vend le fait que quand vous allez à Harvard, vous allez bénéficier des gens qui sont avec vous dans la salle et vous allez bénéficier, une fois que vous êtes diplômé, du capital humain que ces gens portent parce que vous allez être membre d'une confrérie, membre d'un réseau qui va vous aider dans votre carrière et vous permettre d'avoir des salaires qui seront de meilleure qualité, plus élevés. Bien, donc on a une lecture possible d'une école comme un processus sélectif qui joue sur un jeu de signaux à la fois pour les professeurs et pour les élèves avec des systèmes de prix qui révèlent les préférences et qui révèlent les choix des valorisations des externalités disponibles dans l'institution. Et bien entendu, ici ça veut dire que d'un point de vue organisationnel, l'État n'est pas nécessairement présent. Du moment que vous avez ce système de prix, vous pouvez très bien envisager d'avoir des institutions qui sont publiques, des institutions qui sont purement associatives et des associations qui sont éventuellement privées. Rien ne l'empêche. Ici, on est dans une approche qui est assez différente. Donc, on est très éloigné. En fait, il faut bien voir que cette notion d'équilibre par club n'est pas du tout une notion d'équilibre compétitif. Mais c'est une notion parce que les gens se sélectionne et crée des associations. Donc, c'est une partition de l'espace des gens qui ont des préférences. Et il y a une mise en commun des préférences avec des fonctions de transformation des capacités. Alors, qu'est-ce que, néanmoins, dans ce cas-là, quel doit être le rôle de l'État ? Le rôle de la puissance publique ? Ça dépend, bien entendu, de la façon dont se génèrent les coûts de réalisation de ces services associés à ces clubs. Et il se peut très bien que si vous avez des services qui sont, si vous avez une fonction de coût qui est très proche d'un bien public, ça soit l'État qui le fasse. Mais dès que vous avez une fonction de coût qui est très dépendante d'une structure de préférence particulière et d'effet d'engorgement, donc qui dépend du nombre d'utilisateurs, donc et on peut penser que l'enseignement est de cette nature, eh bien, vous pouvez avoir des prestations, ces services peuvent être rendus par des institutions qui ne sont pas des institutions publiques. En particulier parce que d'un point de vue financement public, vous pouvez construire, il y a plein de littérature là-dessus, je n'ai pas mis de référence, mais vous pouvez, suivant les préférences, si votre fonction de coût dépend des préférences des utilisateurs du service, eh bien, les gens aisés peuvent se mettre d'accord avec les gens peu aisés pour qu'il y ait une taxe très faible à la levée pour financer l'enseignement collectif. Et puis les gens aisés, parce qu'ils valorisent les choses différemment, se mettent d'accord en association pour eux-mêmes et achètent ou développent un service de complément d'études, de suivi après la classe pour leurs enfants. Ils ne le payent pas pour les autres puisque l'impôt n'est pas payé sur cette partie-là. Et donc c'est une façon de s'organiser. Donc ces choses-là existent. Hein. Il y a toute une littérature qui permet de construire ces situations. Donc, suivant la fonction de coût, il peut être naturel d'éviter que l'État soit le prescripteur principal de ce genre d'action. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le niveau, parce qu'il peut avoir une externalité globale qui n'est pas forcément prise en compte par tout le monde, donc il se peut très bien que l'État intervienne quand même pour financer la participation de tout le monde et mettre l'effort là où il faut, en aidant financièrement les gens à participer, donc à travers, parce qu'il peut prendre en compte des externalités qui sont supérieures à celles qui sont prises en compte par les locales, par les personnes, donc en particulier sur la criminalité ou la santé publique, et donc il peut avoir une action à travers des bourses, des frais, des avantages fiscaux ou des prêts. Et alors, autre point, c'est que si vous avez une externalité locale qui est par l'effet des pairs, comme dans une fonction publique, dans une tarification publique, vous ne pouvez pas moduler votre tarif en fonction de la structure des gens qui sont dans votre classe, eh bien, ceci ne sera pas accessible dans un financement public. Et donc, il peut y avoir, dans ce cas-là, si, comme on ne peut pas modifier le prix en fonction des préférences ou des aptitudes des gens qui sont dans la classe, eh bien, vous pouvez avoir une inexistence ou une inefficacité de la situation d'équilibre. Donc là, il y a de la littérature aussi qui existe sur ces choses-là. Oui, donc il y a une hypothèse, donc ça je vais le passer, c'était juste pour faire une minute de culture générale, mais je pense que c'est juste pour expliquer pourquoi il peut y avoir, comment la biologie justifie le fait qu'il y a quand même une hétérogénéité des compétences, parce que derrière tout ça, il faut des hétérogénéités des compétences pour justifier la situation, c'est pas quelque chose qui résulte des institutions, c'est quelque chose qui existe avant, qui est exogène. Et en fait, la génétique nous permet d'avoir quelques éléments pour expliquer pourquoi les choses progressent. On va vers un progrès collectif dans cette dimension, mais il y a quand même des hétérogénéités naturelles à la base. Bien. Donc ça, c'était en supposant que... je vois que j'ai le droit jusqu'à quel... jusqu'à... Dix minutes. Bien, je vais aller vite alors. Donc... Tout cela a été dit en ne prenant pas en compte la fonction, maintenant, de particularité d'une institution d'enseignement supérieur, qui est qu'elle peut aussi remplir une mission, qui est la mission de produire des nouvelles idées, faire de la recherche. Et donc ça, c'est la production de recherche, c'est un bien public pur, parce qu'une fois que vous avez donné vos idées, tout le monde peut en faire usage. Alors bien sûr, après, vous avez les données commerciales applicables, les brevets, tout ça, mais on va se mettre ici sur le champ des données fondamentales, des idées fondamentales. C'est quelque chose qui est un produit public pur avec externalité globale. Et puis, vous avez donc, en fait, des institutions qui sont duales, qui produisent deux types de biens, un bien public pur et un bien de club avec externalité locale. Et donc, il faut essayer de construire une description de la situation de ces institutions et des modes d'organisation de ces institutions. Alors, il y a toute une théorie à faire, je vous rassure, elle n'est pas encore faite. Moi, j'ai des bribes, mais je ne veux pas en parler parce que c'est vraiment des bribes. Je vais essayer juste de donner les grandes idées de ce qui se passe là-dessus. Alors, il se trouve que néanmoins, ces deux productions, ce bien public pur et ce bien public local, ce bien public de club, interagissent parce que un des éléments qui donne le signal de la qualité de l'institution et des effets d'externalité, de coordination des choix des gens vers des institutions qui vont aller dans des endroits où ils vont trouver plein de gens qui sont aussi intelligents qu'eux et qui vont en profiter par des effets de groupe, ben c'est un signal qui va être assis en partie sur l'excellence académique et sur la production de recherche. Donc il y a un effet joint entre ces choses-là. Et donc, si l'État doit intervenir sur le bien public, il doit aider à la constitution d'un signal pur, d'un signal associé au bien pur, qui va permettre néanmoins de subventionner qui va servir de signal de coordination sur un bien local de club. Donc ça veut dire qu'il va y avoir déjà ici deux positions possibles pour une institution d'enseignement supérieur, c'est faire un choix. Est-ce que je fais de la recherche et j'enseigne, ou est-ce que je fais que de l'enseignement ? Parce que c'est deux activités qui sont différentes et qui mobilisent des moyens et des structures de capital différentes. Bien. Donc, comme je dis, donc maintenant, la puissance publique a un rôle à jouer différent, puisque d'un côté, il y a un bien public pur, donc elle doit le subventionner pour que ça génère des externalités pour toute la collectivité. Et puis, sur le fait qu'elle génère, qu'elle aide à la production d'idées qui servent en signal de coordination sur le bien public impur, ben il faut qu'elle elle a un, la, publique, la puissance publique a un rôle, c'est de donner des moyens de certifier que l'information du signal est le bon. Donc de rendre compte du fait qu'il y a une publicité et une sincérité du signal qui va coordonner les élèves à aller vers les institutions qui sont avec des signaux de bonne qualité. Donc derrière ça, c'est les problèmes d'agrément, de certification et de tout ce qui est classement multicritère que la fonction publique, la puissance publique peut essayer de développer. Donc ensuite, il y a une compétition qui se crée entre les institutions parce que vous devez être en compétition pour les externalités positives, donc comment vous générez des effets de pair, donc capter les bons étudiants qui vont générer ces effets de pair, et puis capter les ressources pour faire votre recherche. Okay. Donc ce sont deux éléments de compétition, de concurrence, qui vont normalement normaliser et structurer l'espace de l'enseignement supérieur. Alors, je vais parler un peu des problèmes de compétition et puis des problèmes qui sont importants, qui sont les problèmes de comment je vais construire le capital humain qui va générer ces nouvelles idées, puisque c'est ça qui va être l'élément discriminant entre les deux types d'institutions. Celles qui font de la recherche, celles qui n'en font pas. Donc, quels sont les éléments à prendre en compte dans la compétition entre les institutions ? C'est bien sûr leurs préférences, c'est-à-dire que vous avez des institutions qui vont se donner comme mission, par exemple, l'employabilité et non pas la production de recherche. Donc la recherche ne va pas être un objet qui va être une finalité ultime de l'enseignement de l'institution d'enseignement supérieur. Et qui sont aussi des éléments de pourquoi les gens adhèrent à ce club, pourquoi ils veulent y rentrer, c'est qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont en lien avec leurs préférences. Bien. Ensuite, on va prendre en compte dans cette compétition les sources de revenus. L'enseignement est une source de revenus, qu'on soit dans un système public ou un système privé. Si vos élèves doivent payer des tuitions ou pas, si vous êtes dans un système public, la plupart des systèmes fonctionnent sur l'idée que vous aurez une dotation qui dépendra du nombre d'élèves, donc vous devez attirer beaucoup d'élèves. Et puis si vous êtes sur un système privé, vous allez pouvoir faire payer plus cher des endroits où vous aurez des classes composées de bons élèves. La recherche fondamentale, elle doit être financée, mais la recherche non fondamentale, elle peut être financée et peut générer des ressources, donc c'est un positionnement aussi des institutions. Et la recherche fondamentale, elle doit être financée suivant des modes divers et variés et pour toutes les formes juridiques possibles, que ce soit une association ou une entreprise publique ou privée. Donc ces éléments-là sont des choses à prendre en compte. La compétition va être sur comment je vais générer des ressources pour soutenir mon modèle, payer mes bons professeurs, générer de la recherche qui fait un bon signal, et ainsi de suite. Et les intrants qui vont être disponibles, ça va être le temps des enseignants-chercheurs qu'il va falloir partager entre la recherche et l'enseignement, et la structure de production, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des complémentarités, des substituabilités entre les produits et à la fois les produits, les biens publics purs et les biens publics et les biens locaux. Bien. Et dernier point, ce sera la mobilité des agents, puisqu'on est toujours dans un problème de financement en partie par les sources publiques, par les taxes. Et donc, derrière tout ça, il y a tout un problème du fait que les gens votent avec leurs pieds et peuvent se déplacer à des endroits où ils vont moins cotiser pour bénéficier d'un meilleur service. Bien. Alors, la compétition entre les institutions, il y a une littérature qui se développe aujourd'hui, qui est encore assez balbutiante, et donc qui prend en compte ces différents facteurs et qui donne comme résultat le fait qu'on a, comme situation d'équilibre, des situations où vous aurez des universités élitistes, donc qui font de la recherche de haut niveau avec l'enseignement de haut niveau, avec des effets de pair qui vont être très attentifs aux effets de pair, des universités d'enseignement qui feront pas de recherche, et des universités spécialisées dans la recherche appliquée ou dans la recherche fondamentale, donc une spécialisation entre les deux, suivant la structure des rémunérations qui vont être sous-jacentes. Et les frais de scolarité qui vont être derrière ça peuvent être modulés, sachant qu'ils peuvent être aussi avoir des structures d'aide et qu'il peut très bien que le coût net pour un étudiant soit le même, quelle que soit l'institution, qu'on soit dans une institution de recherche d'excellence ou d'enseignement général. Alors, la question importante derrière tout ça, c'est comment je vais financer la formation du capital humain qui va générer mes recherches, qui va générer mon signal de qualité. Alors, il y a plusieurs modes de financement qui sont possibles. Ça peut être utiliser les frais de scolarité qui vont me permettre de financer une partie de ma recherche, bénéficier de subventions publiques, donc c'est sous condition d'attribution et autres, disposer d'un capital important, ça c'est l'endowment à l'américaine, où j'ai une grosse ressource qui va me permettre de payer pendant un certain temps des jeunes professeurs qui vont avoir une charge d'enseignement faible, mais qui vont mettre beaucoup d'énergie à produire de la recherche de bonne qualité. Donc je vais avoir tout un processus sélectif qui est l'entrée dans le club, qui va être très sélectif, qui va dire que, en fait, c'est le principe de la tenure track. Hein, au bout de 6 ans, vous avez fait remplir les conditions, vous n'avez pas rempli les conditions, vous êtes gardé, vous n'êtes pas gardé. Mais tout ça coûte très cher, parce que vous immobilisez une ressource qui sert à faire des idées, à produire des idées aléatoirement, sans produire de services d'enseignement. Et puis, vous pouvez aussi essayer de générer des ressources par des brevets d'idées, mais les exercices qu'on voit aux États-Unis, c'est que la plupart sont quand même déficitaires. Donc, on arrive à plusieurs... La concurrence, les modèles théoriques disent qu'il y a de la concurrence et plusieurs organisations. Et en fait, quand on regarde un peu la littérature, on voit apparaître différentes institutions, que ce soit dans différents pays européens ou une étude particulière qui a été faite en Finlande. On voit apparaître ce genre d'institutions avec cette structuration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des diversités de carrières académiques qui seront associées à la diversité des structures de chacune de ces institutions. Donc, je suis un peu dual de ce qu'a fait Robert, parce que moi, je ne parle pas du tout comment on y arrive et quelle est la gouvernance qui est derrière ça. Je dis simplement qu'on peut arriver à cette situation-là. Bien. Donc, on a une diversité d'institutions organisationnelles, de combinaisons de produits et, bien entendu, il va y avoir des diversités de carrières derrière ça et des diversités de modes de gestion et de mobilité. Donc, historiquement, et je vais revenir un peu sur ce que disait Robert, donc historiquement, des particularités de l'enseignement supérieur, c'était quoi? C'était le recrutement collégial des nouveaux membres. C'était la cooptation dans le club. Il fallait avoir rempli toutes les conditions. Et la difficulté historiquement, c'était de collecter l'information sur les gens. Donc c'était des effets de réseau, parce que si vous mettez dans une situation il y a 30 ans, avoir l'information sur la qualité d'enseignant comme assistant de recherche, assistant d'enseignement d'un jeune doctorant et puis de sa production de recherche, c'était quelque chose qui était coûteux, qui demandait du temps, il fallait rencontrer des gens, il fallait dans des conférences et autres. Et il y avait une répartition, une espèce de module, comme tout le monde était sur le même plan, eh bien, on avait un mode d'organisation qui faisait qu'on faisait une répartition des charges d'enseignement de façon tout à fait équitable. Alors, derrière ça, c'était la question de la tenure. Donc, la tenure, c'était pourquoi faut-il que les gens, que les professeurs soient, aient une tenure, donc une garantie d'emploi à vie, alors que mettre la garantie d'emploi à vie dans un enseignement supérieur, c'est quand même dire à certains, même si dans 20 ans, vous êtes une charge, vous n'arrivez pas à faire de nouvelles recherches, on vous gardera quand même. Alors pourquoi on a élevé cette situation-là? Il y a plusieurs arguments qui avaient été invoqués. Le premier argument, c'était de dire qu'il faut que les gens soient indépendants. Donc c'est le problème de l'indépendance. Et la tenure, c'est une façon de leur garantir l'indépendance. Ils pourront dire n'importe quoi, on ne va pas pouvoir s'en séparer. Et puis, à raison bien sûr, dire n'importe quoi à raison. Et puis l'autre chose, c'était la meilleure façon de garantir qu'on va recruter les bons. C'est de mettre les gens en situation que les bons ne seront pas en concurrence avec ceux qui vont les recruter. Parce que si on doit recruter les bons, eh bien, ceux qui sont en place, ils savent que les bons vont prendre leur place parce qu'ils n'ont pas la garantie de la place, ils ne vont pas les recruter. Donc ça, c'est toute une littérature qui... En fait, l'idée de base, c'est Carmichael, qui en 88, dans le JPI, qui fait ça. Et bien entendu, ben, c'était difficile à gérer au jour le jour parce que vous avez des problèmes de tir au flanc, les gens ne font pas leurs tâches, ont des productions de recherche qui peuvent parfois devenir un peu insuffisantes. Et il y avait très peu d'incitations pour que les personnes mettent tout l'investissement qu'il fallait dans leur enseignement. Bien. Alors, donc le monde a changé. Le monde a changé, ça va changer la façon d'organiser les choses. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a une observation beaucoup plus aisée et beaucoup plus rapide de plein de choses. Premièrement, on a une évaluation des enseignements qui se normalise. Alors, il y a tout un débat, savoir à quel moment, comment, mais dans beaucoup d'institutions aux États-Unis et de plus en plus en France, même à l'université, on fait une évaluation des cours. Et cette évaluation est normalisée. Donc, on a une information comparable de la façon dont les cours se passent. On a une information aussi qui devient de plus en plus importante, parce qu'aujourd'hui, vous avez tout l'aspect web qui se développe, et donc les gens laissent des traces sur le web, parce qu'ils laissent leurs slides de cours, parce qu'ils mettent leurs examens sur les slides, sur le web, parce qu'il y a des plateformes d'organisation où tous les élèves ont accès sur la plateforme, où ils vont avoir accès aux exercices, ils vont avoir accès aux corrigés, ils vont avoir plein de choses. Et donc, il y a toute une information qui est disponible, extérieure, au corps professoral pour avoir une opinion sur ce que fait un professeur. Donc c'est une externalisation qui fait que la fonction, il n'y a que des professeurs qui peuvent juger de la charge et de la façon dont c'est rendu, dont le service est rendu, est en train de s'affaiblir. Cette relation est en train de s'affaiblir. Et la même façon pour la qualité de la recherche. Avant, ça coûtait beaucoup de temps et d'efforts pour collecter l'information. Aujourd'hui, vous avez tout un ensemble d'informations et le recrutement se base là-dessus, sur qui fait quoi, quelle est l'influence de ces idées, est-ce qu'il est fortement cité, et ainsi de suite. Plus, est-ce qu'il a déjà eu des forts financements pour faire des projets de recherche et autres. Donc, il y a tout un ensemble d'informations qui objectivent les choses. Et donc la situation d'information asymétrique qui existait auparavant au sein de l'organisation académique s'affaiblit. Et en particulier, on peut, sur ce qu'a dit Robert, sur l'organisation en partenariat et sur le fait, par exemple, que les cabinets d'avocats se sont fortement inspirés et ont fortement fonctionné sur l'idée de la ténure. Jusqu'à il y a quinzaine d'années, donc, il y a un papier de Hartmann qui en parle aussi, qui dit, en fait, ce mode-là est en train de disparaître pour les cabinets d'avocats. Pourquoi ? Parce qu'on est passé vers une identification beaucoup plus importante de la contribution de chacun des membres du cabinet. Et donc, on va vers une relation d'achat de la prestation individuelle et pas de l'achat de la prestation du cabinet. Donc, on est dans des situations où les structures d'information se déforment et les choses évoluent. Et elles évoluent telles que, par exemple, aux États-Unis, en 1975, vous aviez 57% des professeurs qui étaient en tenure ou en tenure track. Il n'y en a plus que 30% en 2009 et la tendance est à la baisse. Bien. Donc, on voit que tout ce jeu d'informations va faire que la relation et la position de l'enseignant dans l'institution d'enseignement supérieur va se modifier. Je pense que je vais devoir m'arrêter là quand même. Donc, il y a plein de choses. Le rôle de chacun va se développer, va être plus normalisé. Il y aura moins de avoir le cours qui vous entraîne pour toute votre vie parce que vous avez eu un prof à un moment qui vous fait quelque chose de remarquable, ça va devenir de plus en plus rare parce que les choses sont de plus en plus normalisées. C'est triste, mais ça correspond aussi à une idée de la massification de l'enseignement et une observabilité plus grande des prestations d'enseignement et de choses. Donc ça veut dire aussi que les choix de programme, les choix de recrutement ne vont pas forcément être en ligne avec les simples intérêts de l'ensemble des professeurs qui sont présents dans une institution. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction plus grande avec des stakeholders extérieurs qui vont pouvoir être les partenaires ou les propriétaires du club. Donc, en guise de conclusion, j'aurais dépassé quand même de 5 minutes, excusez-moi. On est aujourd'hui, et la chose est en cours, et même en France, pour les institutions d'enseignement supérieur, il y a déjà une diversité croissante des carrières qui est offerte. Diversité qui passe par une diversité des structures légales, associatives, privées, publiques, sur les modes d'organisation et sur les modes de gestion. avec des choses qui s'appuient sur une modification du système d'information qu'on peut collecter sur le travail du chercheur et le travail du professeur. Donc cette observabilité et cette comparabilité croissante des actions et des résultats des enseignants-chercheurs, elle permet d'externaliser d'une certaine façon des prises de décision stratégiques. Mais c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Il faut faire ça avec beaucoup de subtilité, en particulier il faut bien comprendre les mécanismes qui sont derrière ça. Et il faut accompagner les personnes, il faut disposer d'une expérience. Donc, et dans ce cas-là, on peut dire qu'une entreprise qui a des logiques complètement privées ne pourra pas fonctionner sur ce mode-là. Parce que le club qui est à la base de la chose, c'est quelque chose qui valorise un certain nombre de choses, de valeurs qui ne sont pas forcément celles de l'entreprise privée pure. Mais si les entreprises privées ont des modèles sur lesquels des gens peuvent adhérer, il se peut très bien que la chose se développe. On va donc aussi, du fait de cette observabilité, vers des modes de gestion certainement plus directifs, en lien avec des choix stratégiques, de positionnement de l'institution par rapport à une concurrence. Capter des effets de pair plus importants, prélever une rente plus importante sur un certain nombre d'activités. Et donc, quel va être le rôle de la puissance publique dans cette structure-là ? Le rôle de la puissance publique, comme j'ai dit, c'est pas forcément au niveau de l'enseignement lui-même, il peut intervenir sur inciter les gens à se former parce qu'on a besoin de gens formés, parce que ça crée des externalités. Il peut intervenir aussi sur le financement, et il doit intervenir sur le financement de la recherche, parce que c'est un bien public. Et donc là, il doit intervenir sur comment je vais construire et composer le capital qui va me permettre de générer ces nouvelles idées. Donc c'est sur la formation des docteurs, et donc là, il y a un problème de processus sélectif et de perspective de carrière, parce que vous voyez bien que derrière ce que je viens de dire, il y a tout un aléa qui est que tous ceux qui ne rempliront pas les conditions du club, iront dans d'autres clubs avec d'autres objectifs qui ne correspondront pas forcément à leurs valeurs et à leurs appétences, et donc ça peut créer des certaines difficultés. Et puis, alors là, c'est plus une constatation un peu générale, c'est qu'on est, pour financer cette recherche, on est de plus en plus passé par un financement par projet, sur la base des performances passées. Et donc, vous savez, il y a toute une littérature qui se développe sur le fait qu'il y a une croissance des fraudes, qu'il y a beaucoup de résultats qui sont publiés qui ne sont pas des résultats solides, une grande fragilité de ce que produit la recherche, en particulier dans les sciences médicales, biologiques, psychologie, un petit peu en sciences économiques aussi, il faut bien le dire. Et derrière ça, c'est comment je crée le rythme de construction de le bon rythme de construction du savoir. Et derrière ça, c'est comment je dois faire intervenir les effets réputationnels des clubs. Parce que quand vous avez une institution, vous avez des gens qui ont fait de la fraude pour avoir plein d'argent de recherche et qui ont bidonné leurs données et autres, ça a un effet vraiment très, très drastique sur la réputation de l'institution. On l'a vu dans des situations, par exemple aux Pays-Bas, vous avez une université qui était avec quelqu'un qui publiait dans toutes les grandes revues, et puis on a vu que toutes les données qu'ils utilisaient étaient des données créées, construites pour faire ça. Eh bien, le département qui était associé s'est écroulé en à peine 2 ans. Donc, il y a un contrôle interne par les institutions et les clubs du bon usage et du bon rythme de production de la recherche qui peut être derrière ça. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, je ne sais pas si c'était très clair, mais je vous remercie.